dans le retour.
Il est 15h55, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. À Québec, on check nos affaires. À Québec, on s'intéresse à nos dossiers et à nos enjeux. Et ça paraît des mois avant le début de la campagne électorale. On sentait déjà que les gens avaient hâte de se faire présenter les candidats, de sauter dans le vif du sujet. On y est presque au début de la campagne électorale. Et le maire Bruno Marchand est avec nous autres en studio. Monsieur Marchand, bonjour.
Salut à vous trois.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Vous avez l'air en forme. Beaucoup d'entrevues. On dirait que vous avez décidé de partir la campagne électorale là.
Non, parce que c'est bilan, mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas un peu de chevauchement. T'as raison là-dessus. Et oui, à Québec, honnêtement, là, c'est chouette qu'à Québec, ça soit comme ça. Il y a des mairies au Québec où il n'y a pas d'opposition.
Où c'est carrément par acclamation,
oui,
même.
Oui, puis il y a des mairies où ils en cherchent, ils n'en ont même pas.
Ouais.
À Québec, les gens prennent ça à cœur, c'est cool.
Dans plusieurs entrevues, vous avez dit ce matin que la ville de Québec est sur un élan.
Oui.
On le file pas de même, les contribuables. La hausse de la criminalité, la hausse de l'itinérance, la charge globale du contribuable, on a plus l'impression de débouler une côte, nous autres. Ben, c'est de quel élan vous parlez au juste?
OK, mais quand on regarde, mettons l'indice des prix, là, tout le monde paye plus cher ses produits.
Oui.
C'est pas à Québec, là, c'est au Québec, c'est au Canada, c'est en Amérique du Nord, c'est au monde. À Québec, on a la moins grosse croissance de taxes de toutes les grandes villes du Québec, en dessous de l'inflation. Fait que oui, c'est 400$ que ça représente par rapport à l'inflation que les gens ont gardé dans leur poche. 400$, là, les gens, ils ne sont pas passés d'un état à un autre. C'est 400$, ça va, mais il reste quand même que le coût de la vie, c'est vrai qu'il y a des indices de prix à l'épicerie ou autre, à l'essence ou les autos, ça coûte plus cher. Alors, c'est vrai que les gens le sentent. À Québec, on est choyé. On a plusieurs activités gratuites, les bases de plein air, certaines activités, nos PVE, nos programmes vacances été pour les familles. Là, ça coûte moitié moins cher qu'à Lévis. Là, pour on a plus de place que toutes les grandes villes du Québec. Fait que c'est vrai que l'état global, quand on pense à crise climatique, géopolitique mondiale, crise économique avec les Américains, on vit aussi ce constat-là.
Mais
dans
le fond,
on sentir mieux.
Dans le fond, ce que vous dites, c'est les problèmes que vit Québec, pas de ma faute à moi.
Non, ce que je dis, c'est qu'on doit les travailler. Ce que je dis, c'est qu'on s'en tire mieux qu'ailleurs. Quand Moody's dit « notre économie va bien », par rapport aux autres villes du monde, on est chanceux.
C'est-tu le principal adversaire de Bruno Marchand dans la prochaine campagne électorale de vendre le bilan des quatre dernières années?
Bien, c'est toujours ça. Quand tu quittes un mandat, quand tu finis un mandat, la première chose que les gens regardent, c'est ton bilan. Mais ils ne t'élisent pas sur ton bilan non plus.
Mm-hmm.
Tu as beau avoir le meilleur bilan, si tu fais campagne en disant « Regardez, j'ai fait quatre années extraordinaires, j'ai rien à vous dire pour la suite. » Moi, je pense qu'on a fait beaucoup. Honnêtement, là, on a fait beaucoup. Est-ce que c'est assez? Non. Puis est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Absolument. C'est pour ça que je me représente.
Qu'est-ce qui a été entamé dans les quatre dernières années par Bruno Marchand et son équipe qui vous dites « OK, ce n'est que la pointe de l'iceberg, il en reste beaucoup à faire logement. Et c'est notre ambition. »
Le premier, c'est le logement. On a renversé une tendance. On est une des rares villes au Canada à avoir renversé une tendance qui est mondiale et qui est nord-américaine très forte. Les villes ont des problèmes à créer du logement. Il y a du red tape, de la bureaucratie, c'est long, c'est lourd. Nous, on a renversé la tendance. On a la plus grande croissance au Canada.
Mais quand on dit 100 000 nouveaux logements d'ici 2040, ça fait chiffre jovialiste de budget provincial où ce qu'on fait des étendues sur 10-15 ans, puis finalement, ça n'arrive jamais, non?
Oui, mais c'est pour ça qu'on a mis une moyenne. Avant, c'était 5 000. Ça va tellement bien qu'on monte à 5 500. Cette année, on va atteindre pour la première fois le 5 000. Bien, ça prouve qu'on est capable de le faire puis qu'on a renversé une tendance. Parle aux gens qui construisent du logement, ils vont dire la ville, là, à Québec, c'est facile. À Québec, ça va bien. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Là. On respecte les citoyens. Mais il y a vraiment une tendance. Donc, logement, mobilité, on en a suffisamment parlé, nous trois, ensemble. C'est pas vrai que les défis de mobilité sont passés. Là. Il y a du trafic à Québec, il y a des gens pris d'incongestion. Il faut faire mieux. Ça, c'est nécessaire. Après ça, les finances vont bien à la ville. Ça, c'est quand Moody's le dit, là, c'est pas l'agence Bruno Marchand, là, c'est une agence de cotation internationale qui dit que cette ville-là est bien gérée financièrement, elle est saine, nos projets, on les rentre d'un délai, d'un coût. Honnêtement, il faut continuer ça, il faut rembourser la dette, il faut que ça coûte moins cher pour la dette.
Vous avez parlé de mobilité, M. Marchand, puis c'est une question qui est pas mal revenue chez les auditeurs. On a proposé à la gang de Boulevard d'envoyer des questions, puis celle-là est revenue sous plusieurs formes, là, fait que je résume un peu. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour améliorer le sort des automobilistes qui transigent à Québec et qui vont rester des automobilistes avec ou sans tramway, puis qui ne sont pas intéressés par le transport en commun?
Bien, je leur dis, ils ont le droit, puis ils ont raison, puis je les comprends. Puis c'est pour ça qu'on fait une multitude d'offres de transport. Présentement, là, quelqu'un qui dit « Hey, c'est grave, il y a de la congestion. » mais je n'ai pas de solution à te proposer. En fait, ce qu'il te dit, c'est que tu vas rester pris dans la congestion. Pire que ça, ça va empirer d'une année à l'autre parce qu'il y a de plus en plus de citoyens qui habitent Québec, il y a de plus en plus de gens qui veulent se déplacer. La personne qui est dans son char, qui aime sa voiture, là, change pas. Change pas. J'ai pas de leçon à te donner. Là. Moi, je suis qui pour te dire que tu ne devrais pas faire ça ou tu devrais prendre un autre moyen? Ça t'appartient. Ce que je te dis, par contre, c'est que contrairement à bien d'autres qui te disent « Hey, c'est l'enfer », moi, j'amène des solutions pour qu'il y en ait moins de voitures devant toi.
Mais l'automobiliste qui voit pousser des pistes cyclables, qui perd des voies en pleine ville, qui est pogné d'un travaux, il a l'impression que tout est fait pour les autres, okay, mais pas pour lui.
OK, mais les travaux, c'est aussi pour les automobilistes. Là. Si on ne fait pas de travaux, si on a annoncé les boulevards 2.0, on va améliorer 20 boulevards à Québec, on veut les rendre plus fluides pour les automobilistes. Si tu ne fais pas de travaux, bien présentement, tu pars d'un état de lieu où il y a de la congestion puis où parfois c'est pénible de circuler. Quand on dit, là, les gens... Prends juste un vélo, là. Cette année, c'est 2 millions de déplacements. Ce n'est pas 2 millions de déplacements qui remplacent l'auto, là, mais c'est 23 % qui remplacent l'auto. Donc, ça veut dire que c'est 460 000 déplacements sur 6 mois où c'est des trajets en auto qui n'ont pas été faits. La personne qui est dans son char, là, je ne dis pas, hey, tu devrais prendre un vélo, c'est bon pour toi. Non, non, mm-hmm. Je ne sais pas ce qui est bon pour toi. Cependant, quand il y a quelqu'un qui prend son vélo au lieu de prendre son auto, c'est une auto de moins devant toi. Et ça, ça fait une différence sur la fluidité. On ne va pas attendre d'être Montréal, puis que ça soit encore plus congestionné, puis qu'il y a du monde qui dise « Merde, il faudrait trouver des solutions ». Puis c'est pas vrai qu'avec le gouvernement du Québec, présentement, l'état des finances, qu'on va agrandir les autoroutes, là, on ne verra pas ça dans nos prochaines années. Ils n'en ont pas d'argent. Mais pour faire en sorte de passer plus de monde sur la capitale, faire en sorte de passer plus de monde sur le boulevard des Chutes, sur l'Ormière, peu importe le boulevard que vous prenez, puis 12 à Val-Bélair, puis 11, puis 10, puis peu importe où dans la ville, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte qu'il y ait du monde qui se déplace de différentes façons. Vous Et venez, ça, c'est bon pour les automobilistes.
Vous venez de mentionner, ils n'en ont pas d'argent, ils n'en feront pas des élargissements. Celle qui tente de succéder à Gilles Laulier du côté de la ville de Lévis, Isabelle Demers, est allée dire que, oui, le troisième lien, elle aimerait bien ça l'avoir, mais sa priorité, c'est dans les projets qui ont été abandonnés par l'actuel gouvernement. Elle parlait de l'élargissement de l'autoroute 20. Est-ce que vous, dans vos cartons, vous avez l'intention aussi, dans vos engagements électoraux, d'aller au front pour des projets qui ont été abandonnés par le gouvernement? Puis selon vous, lesquels sont
C'est une super bonne question. La réponse est oui, mais pas dans des projets qui ont été abandonnés par le gouvernement.
Parce que le pont d'étagement, les gens le souhaitaient ardemment. Votre projet de transport en commun pour l'étaler vers le nord, ça les prenait les voies réservées. Il y en a plusieurs projets qui étaient importants
pareil.
Pour la ville.
Le métrobus qu'on a mis pour Val-Bélair, là, ça met du monde dans un bus, puis ça enlève du monde sur la route. C'est pas pour tout le monde. Là. Moi, je dis pas aux gens de Val-Bélair, prenez le métrobus, le nouveau métrobus. Ce que je dis, c'est que je pense que ça vous sert dans votre auto qu'il y ait un métrobus qui soit efficace puis que le monde ait envie de le prendre. C'est ça que je dis. Alors, oui, il y a des projets qui ont été abandonnés. Oui, ils nous desservent, à quelque part, vous avez raison. Mais dans la campagne, je ne vais pas dire, bien, le gouvernement, je vais lui demander de faire ça. Je peux le dire. Moi, ce que je vais axer, là, c'est comment on fait pour améliorer la circulation sur nos routes? Comment on fait pour améliorer nos boulevards? Comment on fait pour améliorer pour tous? Il y a du monde qui ont voulu me donner l'étiquette que j'étais contre les autos. Là. Vous ne m'avez jamais entendu dire ça. Je suis venu ici, toi et moi, depuis 4 ans. N'importe quelle tribune, j'ai jamais été contre les autos. Ça se peut pas une ville sans auto. Alors, je n'irai pas dire ceux qui prennent leur char, c'est des mauvais citoyens.
Mais l'automobiliste, quand il entend parler de vélo, puis de tramway, puis de transport en commun constamment, ben il a l'impression qu'on en fait beaucoup pour les autres, puis que lui, il est laissé de côté, puis il y a une partie de la frustration, je pense, qui vient de ça. C'est-tu un problème de communication ou c'est autre chose?
Moi, je pense pas que c'est un problème de communication. Prends ce qu'on a fait avec Google pour rendre plus fluides les intersections, où on améliore avec l'intelligence artificielle les intersections. C'est 12 % du temps gagné à certaines intersections. Puis ça va jusqu'à 20, 25, dépendamment des intersections. C'est important. Mais quand tu t'annonces cette nouvelle-là positive, ça fait moins de bruit. Là. Je ne blâme pas immédiat, ça fait moins de bruit. C'est une nouvelle positive, les gens sont contents. Quand tu parles du tramway qui est très polarisant, tu en parles, puis on en parle longtemps. Le tramway, il va être bon aussi pour les automobilistes. Mettre plus de monde dans un transport collectif, c'est moins de monde sur la route, puis c'est du monde qui, eux, sont en auto, peuvent se déplacer. Il n'y a pas de recette magique. Là. Sam Hamad, quand il parle de son SRB, l'avez-vous vu la vidéo sur Charest, il enlève des voies, là? Il ne l'a pas dit. Il ne s'est pas vanté de ça. Mais en enlevant des voies, il est-tu contre l'auto? Est-ce qu'on peut dire que Sam Hamad est contre l'auto parce qu'il enlève des voies sur Charest? Mais non, lui aussi, il faut qu'il fasse passer plus de monde. Alors moi, je ne suis pas contre l'auto. L'auto, c'est un bon moyen de se déplacer. C'est aux familles, c'est aux gens de décider c'est quoi le meilleur moyen.
Vous avez mentionné le tramway, question qui est beaucoup revenue sur nos réseaux sociaux puis sur le texto. Pour vous, M. le maire, pourquoi vous ne voulez pas organiser un référendum sur le tramway avec une question qui est claire, précise, sans tenter d'influencer le résultat? Ça clôturerait le dossier une fois pour toutes.
Jean Charest a dit ce matin, ce midi, dans une conférence ici à Québec, là, il faut repenser notre économie pour aller plus vite. Jean Charest appelle les entrepreneurs et les politiciens à revoir le modèle économique pour mettre des projets en place plus rapidement et aider notre économie. Le tramway, là, c'est un projet économique. C'est 7,6 milliards d'argent public, c'est 4,5 milliards d'argent privé, dont on voit déjà les retombées, là, sont déjà investis dans des entreprises d'ici. Là. Ça, c'est une façon de nourrir notre économie dans un climat super compliqué en économie. Nos entreprises, il y en a qui en arrachent. Le chômage des jeunes augmente comme il n'a jamais augmenté parce que les actions de Trump ont des effets. Ça coûte plus cher. Il y a des choses qui coûtent plus cher à cause des tarifs et des contre-tarifs. Mais ce que Jean Charest dit, ce que Mark Carney dit, puis ils ne sont pas même enseigne, ils ne sont même pas dans le même parti, c'est qu'il faut accélérer nos projets de cette ampleur-là parce qu'ils améliorent notre économie, ils donnent de l'air à nos entreprises.
Fait que vous avez l'impression qu'un référendum ne serait pas gagnant pour le tramway.
Je ne sais pas ce qui serait gagnant ou pas, mais on retourne en arrière. On retourne en arrière parce que là, on prend une année, deux années à dire on met sur pause. On dit à nos entreprises, vous n'aurez plus d'argent pour construire le tramway, on va attendre que ce référendum-là ait lieu. Alors qu'il y a eu des élections qui ont confirmé le fait qu'on avait des partis pro-tramway. Mais les gens qui n'aiment pas le tramway comme moyen de transport, là, vous avez le droit, je vous comprends. Mais il y a deux tiers des citoyens de Québec qui disent, arrêtons d'en parler et avançons. La Ville de Québec ne peut pas juste être un serpent à échelle où on revient toujours à la case départ et on recommence à zéro. Et là, on a des ténors économiques dans un contexte actuel qui disent, de grâce, aller de l'avant avec les grands projets, ça va nous aider, ça va nous donner de l'air, ça va nous donner du gaz, ça va donner des emplois. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On décide de revenir en arrière, de retourner le chèque? Je ne comprends pas pourquoi on ferait ça.
Monsieur Marchand, je sais que c'est l'heure des bilans, c'est l'heure des projections, mais je veux quand même qu'on passe en rafale quelques petits dossiers d'actualité qu'on a sous les yeux depuis quelques jours ou quelques semaines. Stade municipal, les Capitales s'en vont en série. Premier match local des séries vendredi. Il y a un paquet de records de franchises qui ont été vendus, autant au niveau des ventes qu'au niveau des assistances, qu'au niveau des performances sur le terrain. On demande des stationnements supplémentaires. Là, on a débloqué quelques espaces de plus. L'Organisation des Capitales dit c'est une belle solution temporaire. C'est quoi qu'ils veulent et c'est quoi que vous leur offrez concrètement pour les aider dans ce succès-là des Capitales?
Alors, l'espace est restreint, là. Il y a déjà du stationnement. Il y en a pas assez parce qu'il est tellement populaire, tu l'as bien dit.
Ouais.
On a débloqué de nouveaux espaces autour de la centrale de police, des espaces qui étaient vides, donc pourquoi pas les débloquer?
Mm-hmm.
On pourra pas rajouter 500 espaces tout d'un coup de même. Il n'y a pas d'espace. Fait que qu'est-ce qu'on va proposer? On va continuer de travailler avec les Capitales pour voir qu'est-ce qu'on peut offrir.
C'est faisable? Des navettes? On le voit que ça fonctionne avec les remparts, avec les événements.
Exact, ça marche dans certains événements. Il faut travailler ça. Il faut être fier des Capitales. Le monde est là. Bravo à la population de Québec. Mais il faut être à la hauteur des attentes.
Parce qu'il y a la proximité du centre Vidéotron puis d'un centre d'achat pas loin, où tu as énormément de places de stationnement. S'il y avait un système de navette à partir de là, il me semble qu'on solutionnerait une partie des problèmes.
C'est des choses qu'on peut penser.
Mm-hmm.
Les gens vont dire que ça s'organise vite, pas si vite que ça. Mais oui, il faut le penser.
Tu es assez pour arriver concrètement avec une résolution pour la campagne électorale?
C'est sûr qu'on regarde ça présentement. Là. On l'a vu, là, l'affluence. Là.
Okay.
Si on n'est pas capable de livrer un bon service, on ne le fera pas, par contre.
Le bruit des parents et des joueurs à l'Académie Saint-Louis, on est à quelques jours d'un référendum qui sera perdu par l'école. Comment
je
ça se fait pour régler ça?
Si sera perdu. On ne le concède pas.
Statistiquement, si on se fie à ceux qui ont le droit de vote, ils font partie des immeubles avec le syndicat qui est le plus vocal, puis on se rend compte que les informations qui sont données ne sont pas nécessairement les bonnes pour les gens qui vont aller voter. On peut se questionner sur la légitimité d'un processus comme celui-là.
Mais c'est ça. Alors, si vous savez, là, on est tous d'accord que l'Académie de Saint-Louis devrait pouvoir jouer. Mais quand on va contre un référendum, les gens disent le maire n'écoute pas. C'est ça que les citoyens disent. C'est facile de dire.
Par contre, il y a d'autres mécanismes que la Ville peut utiliser. Mais vous l'avez déjà dit que des fois, des règlements qui sont dépassés, il faut les changer.
Oui, mais là, on ne pouvait pas se soustraire. On ne peut pas se soustraire à nos propres règlements.
Vous avez une solution pour après le référendum?
On va s'en reparler après. Là, présentement, ce que je demande, c'est aux citoyens de ces copropriétés-là de réfléchir. Moi, je pense qu'il y a un petit noyau qui noyote le reste. Il y a des jeunes qui veulent jouer quelques fois par année. On n'est pas le soir, on n'est pas la nuit, on n'est pas en train de mettre un bar à côté de leur résidence. Là. Ça ne transforme pas ta vie en catastrophe, en enfer. Là.
Pour 10 jours dans une année.
Exact. Hein? On peut-tu avoir un peu de sens commun? On peut-tu être capable d'avoir de l'ouverture? J'espère qu'on va le gagner le référendum, c'est dimanche prochain. Jeff est là, Jeff Gosselin.
Il est allé
faire des portes. On a fait les portes de la copropriété. On va continuer de le faire, on continue de se battre. Et on demande à ces gens-là qui ont le droit de vote. C'est pas nous autres qui déterminons qui a le droit de vote. Hein. C'est déjà déterminé au préalable d'avoir du sens commun. Puis après ça, on verra ce qu'on fait.
Fait que c'était impossible de court-circuiter ce processus-là. Il devait se rendre jusqu'au référendum.
À partir du moment où il a demandé, oui.
En même temps...
À partir du moment, il y en a un autre dans Charlebourg en passant. Il y en a un autre référendum dans Charlebourg présentement sur un autre projet puis qui risque peut-être d'être perdu. J'espère que non. Mais à un moment donné, c'est ça aussi qui arrive. Quand on est dans le pas dans ma cour, puis là, on est clairement dans du pas dans ma cour, bien, il y a des petits groupes de citoyens qui peuvent empêcher la ville d'avoir extraordinairement des belles choses qui se passent. Moi, je n'aime pas ça.
En même temps, un maire qui arrive en début de campagne électorale puis qui réussit à trouver une solution à ce problème-là après l'avoir étiré alors que le conseiller du coin n'est pas quelqu'un de son équipe, on jase, là. Ça va rapporter, ça, politiquement.
Non, mais ça n'a jamais été pensé de même. On ne fait pas ça avec une école avec des jeunes. Là.
J'espère que non.
Mais non. Non, Denis, là-dessus, il n'y a rien qu'on fait, qu'on prend les gens en otage pour faire de la politique. Là. Puis que la conseillère soit de mon équipe ou pas, ça n'a pas d'importance.
OK. Destination Québec Cité, un dossier sur des dépenses injustifiées pendant que les personnes visées se cachent derrière un congé maladie.
Attends, Denis.
Oui?
OK, faut être humain un peu, là.
Bien, un congé maladie qui commence à partir du moment où on pose des questions puis qu'il y a un reportage dans le journal, ouais. On peut parler d'un concours de circonstances douteux.
OK, mais moi, je ferai attention à ça. Je parle aux auditeurs et à nous là, qui sommes ici. Là. Quand tu te retrouves, peu importe ce que tu as fait, OK, je justifie ce qui a été posé comme action. Là. Quand tu te retrouves sur la place publique puis que tout le monde te cible, à tort ou à raison, c'est peut-être à raison, ça se peut que ta santé mentale en prenne.
Je comprends ça.
OK? Puis quand ta santé mentale débarque, tu n'es pas en train de dire « je me suis sauvé ». Je ne suis pas en train de dire que ce qui a été fait est correct. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu des dépenses injustifiées. Je suis juste en train de dire, si on était, nous, dans cette réalité-là, on aimerait ça aussi qu'on respecte le fait que si on est en maladie, on est en maladie.
Mais ça n'aurait pas été essentiel, M. Marchand, d'avoir des résultats concrets là-dessus, mais avant la prochaine élection?
Oui, mais c'est la preuve qu'à un moment donné, il ne faut pas faire des choses électoralement parlant. On a posé des gestes, on a mis des nouveaux processus, on a identifié la plupart des dépenses qui étaient problématiques, on vous a dit les montants, on a communiqué de façon transparente, puis oui, on va les rencontrer, mais je pense qu'il faut prendre soin du monde. Puis il y a des contextes que je n'ai pas besoin d'expliquer, là. On n'ira pas dans le personnel. Je ne pense pas ici qu'il y a des gens qui se cachent derrière un congé de maladie. Ça étant dit, je ne suis pas en train de dire que parce que tu es en congé de maladie, ce que tu as fait avant, ça s'efface. C'est pas ça que je dis du tout.
Est-ce que cette histoire-là a fait en sorte qu'on a lancé des vérifications dans d'autres départements de la ville au niveau des dépenses?
Non, parce que là, on avait une situation particulière où il y a un conseil d'administration, il y a une ville, puis là, la responsabilité est à chevauchant de deux espèces d'entités, ce qui fait qu'il y a pour 3 000 de mémoire, là, 3 500 de dépenses douteuses qu'on va avoir des réponses puis qui ne marchent pas. Bien, ce 3 500-là, ça a beau être pas 10 000 ou 100 000 pour l'instant, c'est 3 500 qu'il faut vérifier, valider et que ça ne se reproduise pas.
Quand le gouvernement a investi de l'argent pour amener les Kings de Los Angeles, on a ri de ça ensemble pendant une entrevue. Pourquoi la Ville de Québec a investi 10 000 $ de notre argent pour amener Ronaldinho, légende du soccer, à Québec?
On n'est pas dans le même niveau, là.
Non? Bien, c'est un grand joueur, Ronaldinho?
On était 5 à 7 millions.
Qu'on me dit.
Non, on était 5 à 7 millions versus 10 000 $ On a soutenu une organisation locale qui voulait le faire venir, qui avait besoin d'aide, auquel Destination Québec s'était participé. Puis ça a permis de faire quoi? L'analyse, c'était que Ronaldinho était tellement suivi. En étant ici, bien, il fait rayonner Québec. C'était une pub.
Je comprends que la somme n'est pas immense. Moi, c'est surtout le principe.
Mais le principe, c'est que ça a été analysé de façon touristique. Quand un Ronaldinho...
On voulait la visibilité, dans
oui,
le fond?
Oui, c'est ça, exact. Puis qui publie sur ses médias sociaux, qui est à Québec, que c'est extraordinaire.
On a-tu pu mesurer ces impacts-là?
Bien, j'imagine que oui, là, eux autres. Là, je peux pas le dire. Moi, j'ai pas vu ça.
Bien, les gens en file qui n'ont pas eu d'autographe, eux autres, ils l'ont mesuré. Là, ils étaient bien déçus.
Oui, mais ça, c'était pas notre organisation. Mm-hmm. Là, nous autres, on a soutenu l'organisation ça a amené quand même un rayonnement. Après ça, on pourra questionner si c'est la bonne hauteur de financement, est-ce que Destination Québec City devait y aller ou pas. Il y avait quand même un choix rationnel qu'on peut contester, qu'on peut remettre en question. Mais quand vous avez la chance d'avoir un gars qui est suivi par des milliers et des milliers et des milliers de fans à travers le monde puis qui met Québec sur la map, on ajoute une pub, on n'est pas questionné. Mais ça, c'est une forme de pub. Au lieu d'être une pub, c'est une pub de quelqu'un, d'un influenceur qui dit « Hey, c'est hot, là ».
C'est un commentaire d'auditeur, puis ouais. Je veux l'adresser, puis je veux vous entendre là-dessus. Des gens qui disent « Bruno Marchand, c'est le maire du centre-ville, puis c'est quelqu'un qui a délaissé les banlieues, qui s'en est peut-être pas assez occupé, puis qui a peut-être pas assez parlé avec les gens des banlieues. » Je veux vous entendre là-dessus.
Ben, avoir assez parlé, oui. Est-ce que dans les médias, mon propos était assez bien dit pour que ça soit entendu ou que les gens avaient l'impression d'être compris? Là, je vais laisser le soin aux auditeurs de l'évaluer. Mais on n'a jamais fait autant pour les banlieues. On n'a jamais fait autant d'activités culturelles, d'activités sportives dans les banlieues. On a déplacé des championnats du monde, on a déplacé des activités, on a amené de la culture. On n'a jamais autant investi dans les infrastructures de proximité. On n'a pas fait de centre Vidéotron, c'est vrai, mais on a investi dans des skateparks, des terrains de basketball, des terrains de baseball, dans Saint-Émile, dans Beauport, dans Charlebourg, dans Cap-Rouge. On avait cette philosophie-là d'investir dans un quartier et ça va jusqu'aux rues commerciales. La rue commerciale Racine à Loretteville, là, c'en est une banlieue. Là. Ce qu'on a fait sur Campanile à l'ouest, c'en est une banlieue aussi. Là, d'investir dans les rues commerciales avec des trames fortes, de renverser des situations. Moi, je crois à une ville, pas à une ville, le centre-ville versus les banlieues ou l'inverse. Et s'il faut que mon message soit meilleur, je vais l'évaluer, mais je vous jure que j'ai à cœur que dans toutes les banlieues, ça rayonne. Puis le centre-ville n'est pas plus important que Beauport, que Charlebourg. Nos patinoires réfrigérées sont où? Sont dans les banlieues. La première ne l'était pas parce que ça me demande la Fondation des Canadiennes pour l'enfance. Mais la vraie première où on décide, où on la met, c'est à Charlebourg, puis la deuxième, t'as du Berger, là. Il peut y avoir une perception, puis je ne dis pas que l'auditeur a tort dans sa perception, mais je vous jure que sur l'épreuve des faits, Christy, qu'on croit aux banlieues, puis qu'on a envie de continuer d'analyser tout ce qu'on peut faire et faire comme on a fait beaucoup de choses pour les banlieues.
Parlons-en du centre-ville. Depuis quelques mois déjà, la ville tente de mettre en place différents efforts pour tenter d'améliorer la cohabitation entre sans-abri, commerçants, ouais, citoyens. Ouais. On a l'impression que dans les derniers mois, au lieu de s'améliorer, la situation s'est dégradée. On a reçu plusieurs témoignages des sans-abri qui se retrouvent dans des abribus, alors les utilisateurs du RTC ouais. sont pognés à côté. Ouais. Des sans-abri qui vont être agressifs envers des gens qui travaillent, qui fréquentent le secteur. Ceux qui vont à la recherche de chaleur, les nuits ont commencé à refroidir dans certains coins, s'installent là, puis quand on appelle les services de police, on se fait répondre « Ouais, mais on peut rien faire, y es-tu en vie? » Est-ce qu'on est venu à bout de ressources et de moyens sur le terrain?
Non. Mais est-ce que présentement, la situation que vous décrivez est vraie? Oui. Est-ce que la situation de l'itinérance s'est empirée à Québec, au Canada? La réponse est oui. Une ville comme Edmonton, comparable à Québec, a 5000 personnes itinérantes.
Ça, on s'en était parlé.
Il y en a 1000 ici.
Mais à Québec, on ne voit pas l'amélioration dans les derniers mois sur la sécurité.
Sur la sécurité, globalement, ça s'est amélioré. Quand on, les policiers, je vais faire abstraction de l'itinérance. La sécurité, globalement, ça s'est amélioré à Québec. On a une police proactive, on a rajouté des policiers.
Oui, mais en fin de semaine, il y avait des articles dans le journal qui mentionnaient que des citoyens qui étaient victimes d'introduction par effraction, de vols qualifiés, puis je comprends qu'ils ne sont pas fait voler un char ou tout leur meuble, mais qui ont l'impression de ne pas avoir de suite puis d'écho par rapport à ça, puis c'est en train de devenir de plus en plus global dans la région de Québec. Il y a des inquiétudes, là.
Puis qu'il y ait des inquiétudes, c'est tout à fait normal, là. Mais on a plus de policiers, on a mis l'accent, là. On a rajouté beaucoup de policiers, puis on a mis beaucoup d'argent justement pour traiter tous ces enjeux d'insécurité qu'il faut traiter. C'est important. Quand les gens ne se sentent pas en sécurité, c'est un problème. Je pense que la sécurité est meilleure qu'elle était. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits crimes comme ça commis, mais je vous jure que notre police est proactive puis que les gangs criminalisés, entre autres...
C'est quoi les prochaines étapes pour l'itinérance, si vous y travaillez encore? Parce que les gens ont encore votre fameuse phrase d'itinérance zéro en tête.
Mais je l'ai encore moi aussi. Mais je n'ai pas promis l'itinérance zéro pour 4 ans. J'ai promis l'itinérance zéro, puis j'y crois, puis je veux qu'on le fasse. Mais j'ai besoin du gouvernement du Québec là-dedans. Si le gouvernement du Québec n'y croit pas avec nous, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. En 4 ans, on a...
Je ne pensais pas que c'est un peu trop. Puis je suis une personne optimiste, M. Marchand, là.
Mais si
je
la
pensais
Finlande
pas que c'était un peu trop.
Non. Si la Finlande le fait, pourquoi on n'y arriverait pas, nous autres? Mais pour faire ça, il faut avoir du courage politique. Il faut dire on veut l'itinérance zéro. Il faut avoir des statistiques. On n'en a pas tous les ans, c'est un problème. On ne sait pas tout le temps où on s'en va. Ça prend 4 ans à avoir des stats. Puis on n'a pas l'audace d'ouvrir assez d'espace pour faire en sorte que ces gens-là soient sortis des abribus, soient sortis de ces endroits-là où ils ne sont pas de toute façon heureux. Ils se font voler. Parfois, ils se font attaquer. Eux autres aussi en vivent de la violence. Là. Fait que je ne suis pas en train de dire que celle vécue par les citoyens, overall, est moins pire. Je fais juste dire les solutions, elles existent. On a besoin que le gouvernement du Québec soit aussi ambitieux que nous. La ville, on a mis des choses en place et il y a des commerçants sur Saint-Joseph qui me disaient « ça paraît ». Saint-Joseph, c'est plus propre qu'avant. Il y a moins de graffitis qu'avant. Il y a plus de sécurité qu'avant. On a rajouté une deuxième équipe de police. Est-ce qu'on est venu, et suite aux commentaires qui ont été faits, est-ce qu'on est venu tout régler? Ben non. Il faut en faire encore plus.
Vous avez mentionné le gouvernement du Québec. Est-ce que vous écoutez la commission Galant et à quel point vous avez du plaisir?
Ben non, j'ai pas de plaisir.
Nous autres, on en a beaucoup. Là.
Mais j'ai pas de plaisir parce que, tu sais, vous savez... L'impression que les citoyens, puis je comprends pourquoi qu'ils l'ont, c'est que tous les pouvoirs publics dans ces projets-là l'échappent à chaque fois. Puis moi, je vais vous dire, à Québec, j'ai une tonne de démonstrations que ce n'est pas le cas. La bibliothèque Gabriel Leroy, qui a gagné la meilleure bibliothèque au monde, est rentrée dans les coups. Le centre de biométhanisation, le centre de police, le centre de glace, les grands projets à Québec, on a été, parfois, il y avait des variations de coûts, mais c'était minime. On a été capable de respecter l'argent du citoyen et pas tomber dans des pièges de double, de triple, de quadruple. Malheureusement, ça arrive, mais où je suis, moi, malheureux, c'est que ça irradie sur toute la classe, tous les gouvernements. Puis les gens pensent que c'est comme ça partout. C'est pas le cas à Québec.
On est à l'aube d'un remaniement ministériel. Est-ce que ça prend un nouveau ministre responsable de la région?
Oh, ça, je laisse ça au premier ministre. Moi, si c'est M. Julien, je vais travailler avec. On a des idées, on a travaillé, on a une collaboration. Il sait où on s'en va et il milite pour nos, j'ai envie de dire, nos projets importants. Si le premier ministre décide autre chose, je vais vivre avec, mais ce sera au premier ministre de décider.
Avez-vous des demandes spéciales? Non. Je ne sais pas, une nouvelle ministre des Transports, par exemple?
Non.
Non.
Ça donne rien d'aller là. C'est le premier ministre qui va décider. Mais il y a, tu sais, on a eu des conflits avec le gouvernement, c'est vrai. On a eu plein de ministres avec lesquels ça a super bien été. Là, Mme Duranceau, en logements sociaux, on n'a jamais eu autant de logements sociaux et abordables à Québec en 4 ans que dans les 20-30 dernières années à Québec. C'est fou ce qu'on a eu, plus de 2300. Mais ça prend une collaboration avec le gouvernement là-dessus. Là. M. Girard, le ministre, on a eu d'excellentes collaborations avec Éric. Évidemment, ça fait moins la manchette, mais il y a eu des lieux de collaboration, puis c'est pas les deux seuls, il y en a plein.
Il y a des gens qui veulent vous entendre là-dessus, puis je suis pas surpris. Quand vous boycottez un média, quel qu'il soit, vous avez pas l'impression de donner raison à vos détracteurs puis à vos critiques et de tourner le dos à une partie des citoyens?
Mais c'est pas le but. Tu sais, je me souviens quand on s'était dit on se donne ça rendez-vous au mois, je me souviens, Denis, t'avais les yeux grandement en disant « vas-tu le faire? »
Mm-hmm.
Bon, je l'ai fait.
La politique m'a appris à être cynique face à ce genre d'engagement-là. Oui.
Avoue que je l'ai fait.
Oui, absolument.
Je suis venu ici, puis vous m'avez posé des questions tough. Puis
on vous le donne souvent en ongle.
Oui, puis c'était pas béni, oui. Puis des fois, ça allait bien, des fois, ça allait mal. Des fois, vous étiez très critique, puis c'est votre job. Je refuserai jamais les demandes médias, évidemment, en fonction de la disponibilité, mais j'ai toujours dit oui, puis je crois à l'importance des médias sous toutes leurs formes. Mais si je vais dans un média où c'est pas équitable, où une fois que je suis parti, on déforme les faits, on déforme la vérité, puis on ne donne pas un traitement équitable, ça ne donne rien. Alors, c'est pas en respect ou en manque de respect pour les auditeurs. Je respecte leurs auditeurs. Si je ne suis pas dans un contexte d'un traitement équitable, je ne parle pas d'un traitement favorable. Je demande juste un traitement équitable. Puis je trouve que le plus bel exemple, c'est ici. Vous m'avez toujours offert un traitement équitable. Vous n'êtes pas toujours d'accord, vous êtes critique. Parfois, vous donnez des bons coups, parfois, vous donnez des mauvais coups. C'est parfait. Mais c'est la preuve qu'on peut faire ça.
En terminant, M. Marchand, vous avez accusé sa maman de faire du maraudage. De quoi aviez-vous le plus peur? De perdre des gens importants de votre équipe ou qu'ils vous volent votre nouvelle blonde?
Ah ben, entre les deux, j'aurais plus peur de ma blonde, là, mais parce qu'elle est précieuse, mais les candidats aussi sont précieux.
Comment on gère ça, cette relation-là, ces deux personnes publiques? Avez-vous tracé les paramètres? Un genre de prenup où vous êtes dit, OK, on fait ça de même?
Ben on parle pas de ça.
Avant de le rendre public, ça nous a tourmentés. Là.
Ouais. Ça fait combien de temps?
C'était une semaine. Tu sais, c'est quoi une nouvelle relation? Quand est-ce que ça commence? C'est pas clair, là.
Ouais.
Mais mettons qu'à partir d'avril...
Faudrait demander à la demoiselle son meilleur dans les dates, d'habitude.
Non, c'est pas que je suis pas bon dans les dates. C'est juste que si tu es à la première rencontre, si au premier souper, c'est quand que ça devient officiel. Alors, à partir d'avril, on a commencé à se fréquenter puis à se voir. C'est magnifique, là, honnêtement. Je suis heureux de ça. Maintenant, je veux pas la vivre de façon publique. En même temps, c'était nécessaire de le rendre public, notamment pour elle, pour qu'elle respecte toute la transparence nécessaire. Maintenant, on sait que ça attire le regard. Alors, qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on publie pas, j'en ai aucune idée. On va essayer d'être parcimonieux, puis en même temps, il faut vivre aussi, là. T'sais, j'étais allé au restaurant en fin de semaine, on va pas se cacher, là. Si quelqu'un prend une photo, c'est la vie, tu sais. Bien, à partir de là, la vie est belle.
Merci, M. Marchand.
Salut.
Bye-bye. Bruno Marchand, maire de Québec, pour réagir, 418-971-1021. On a été correct dans le temps, hein? Juste limite.
limite.
Presque impeccable.
Mais il parle beaucoup. Hein?
C'est ça qui arrive. C'est parce qu'il parle trop. On a trop de questions.
Hey, M. Marchand, on se revoit potentiellement pour un face-à-face?
Ben oui, j'ai entendu ça.
Vous êtes partant?
Ben, ça me tente.
Ben, génial.
Mais là, vous aviez déjà dit oui, fait que je prends pour acquis que c'est le cas.
Non, ça me tente.
Parfait.
Ben, moi, je voulais le reposer pour être sûr, là, c'est TP.
Oui, je voulais le TP, hein? Salut aux auditeurs, salut à vous trois.
Bye-bye. Le maire Bruno Marchand, puis le face-à-face auquel on fait référence, ben, c'est quelque chose qu'on essaye d'organiser depuis quoi? Le printemps, avec Sam Ahmad et Bruno Marchand. Je pense que les citoyens de Québec méritent un échange entre les deux candidats principaux.
Ouais.
Puis bien franchement, pour le genre de radio qu'on fait, ça m'apparaît impossible d'asseoir tout le monde autour de la table. Si on se rend jusqu'à Anne Guérette, je veux dire, on sera pas capable d'avoir une conversation qui a de l'allure. Fait que je pense que l'idée d'avoir Sam Ahmad et Bruno Marchand, je pense qu'on est capable d'avoir quelque chose qui peut être constructif puis qui peut aider les gens à faire leur idée. Ce qui est quand même important là, au total tout. Puis pour les gens qui pensent que c'est déjà terminé pour Sam Ahmad parce que le début de sa présentation a été chambranlant, parce qu'il a pris en grippe les journalistes qui ont posé des questions, parce qu'on a envoyé une toune sur le Facebook qui était douteuse, ça vire de bord vite, hein, des fois. Puis je pense que le défi, là, c'est que le vrai Sam Ahmad doit sortir, mais là, ça commence à presser.
Le 19 septembre, c'est le début officiel de campagne. Le maire Marchand nous l'a dit en début d'entrevue, là, c'est pas son début de campagne, c'est son bilan. Mais les deux, t'as pas le choix. Ça reste intimement relié de toute manière parce que il y a des électeurs, en fait, une majorité d'électeurs vont regarder le bilan pour aussi décider qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à Bruno Marchand. Mais ça va être intéressant de voir de tous les partis, c'est quoi leur proposition, c'est quoi leur engagement, c'est quoi leur solution. J'ai l'impression que dans les dernières semaines, on s'est traité de menteurs de part et d'autre, puis on s'est traité d'un tas d'affaires. Mais le côté constructif qu'on recherche à Québec, qui explique pourquoi il y a autant de partis, il y a autant de candidats qui s'intéressent à la mairie, c'est qu'on a des citoyens, on est des citoyens qui se soucient de l'avenir de leur ville. Mais ça va prendre des projets, ça va prendre de l'audace, ça va prendre de la vision à court, moyen puis à long terme. Puis le parti du maire Marchand ne pourra pas juste surfer sur son bilan. Faut voir plus grand.
Oui.
Puis du côté de Sam Ahmad, des propositions, on n'en a pas eu jusqu'à maintenant. Puis arrêtez pas de dire, il est trop tôt, il est trop tôt, il est trop tôt. Moi, j'attends tous les partis le 19 septembre avec une plateforme qui va être intéressante pour tout le monde.
Ce qui a fait mal, c'est qu'on avait l'impression que quand il s'est lancé, Sam Ahmad, il n'y avait rien de prêt. Puis même si tout était prêt puis qu'on attendait juste le bon moment, l'impression que ça donne, c'est que tu n'es pas prêt. Et ça, c'est dur de faire décoller cette impression-là après. Le Sam Ahmad le plus fort jusqu'à maintenant, ça a été le fantôme de Sam Ahmad avant la création de son parti puis avant les annonces officielles.
Faut que ça commence avec un bang le 19 septembre pour lui.
Normalement. Et puis même, sais-tu quoi? Ce qu'il fait aujourd'hui, le maire Marchand, moi, je pense que c'est Sam Ahmad qui aurait dû le faire avant. Donner le ton, donner l'heure, puis y aller avec ses grandes...
Donner le rythme?
Oui, oui. Ah, de ne pas attendre le début officiel de la campagne électorale, puis bing-bang, c'est moi qui mène la parade.
Petite parenthèse, un peu plus tôt cet après-midi, on vous disait qu'on recherchait un jeune garçon de 12 ans. Bonne nouvelle, il a été localisé par les policiers. C'est grâce à la vigilance d'une citoyenne. On parle de bonne santé physique, puis on remercie les citoyens de leur collaboration.
Comment vous avez trouvé le maire Marchand? Ça fait une couple d'entrevues où il est plus zen ou relax. Puis moi, je me disais...
Moi, la défensive.
C'est la campagne électorale, mais... Peut-être juste en amour, shit.
Ah, oh, shit, Lola.
C'est peut-être juste ça.
Ça aide, des fois.
Ben là...
Ma théorie de base, c'était que la compétition, c'est toujours bon.
Ouais.
Puis je suis désolée pour ceux qui actuellement constituent l'opposition à la Ville de Québec, mais j'ai l'impression qu'ils ne vous voyaient peut-être pas autant comme une opposition comme il a pu voir Sam Ahmad comme étant un risque pour sa réélection du côté de l'Hôtel de Ville. Mais c'est sûr qu'être en amour, j'imagine que ça ne change pas. 20 minutes, c'est court, hein? 20 minutes?
Oh, oui, ça va vite.
J'avais encore des questions.
Oui.
Ben, il y en avait encore énormément d'auditeurs, j'ai pas le choix de te le dire. J'en avais à peu près une quinzaine de côté, là. Fait que ça en dit quand même long. Rapidement, si tu me permets, Don, circulation. Henri IV Nord, à la hauteur de l'avenue Chauveau, la voie de droite qui est bloquée, il y a un accident. Des débris aussi dans la chaussée qui créent énormément de ralentissements. Capitale, dans les deux directions, je te dirais qu'entre Henri IV et Laurentienne, c'est bordélique. Direction ouest, c'est plutôt entre Henri Bourassa et Laurentienne qu'on le sent. Robert Bourassa, direction nord, entre le boulevard Laurier puis la Capitale, c'est complètement au ralenti. Des gros problèmes sur Henri IV Nord à partir de Charest jusqu'à dépasser la capitale. Direction sud, c'est de Charest au pont. Duplessis sud, chemin Sainte-Foy au pont. Pour ce qui est de la rive sud, c'est la 20 direction ouest entre Monseigneur Bourget et chemin des îles. Vous n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit d'autre. 88-971-1021 texto.
Je tiens à le dire à des gens qui peut-être nous essaient pour la première fois boulevard 102-1 depuis son élection, depuis le début de son mandat. Le maire Marchand est venu nous voir à raison d'une fois par mois. Puis tantôt, je disais que j'étais sceptique devant ce genre de promesses-là. C'est que j'ai déjà été échaudé un peu. L'époque Régis Labeaume, c'était quand ça va bien, Régis vient en entrevue. Quand ça va pas bien,
on envoie Richard Côté.
On envoie quelqu'un d'autre ou on se présente juste pas. T'sais? Et je me disais, ça va être la même chose avec Bruno Marchand. T'sais, quand l'actualité va brasser, puis il y a eu des moments... Là, quand
il a trouvé ça moins le fun. Là.
Quand il s'est fait enlever le tramway par le gouvernement, quand il y a eu des relations tendues et tout ça, il s'est présenté quand même. Moi, je trouve que c'est tout à son honneur. Puis juste vous donner mon évaluation de c'est quoi une entrevue. Moi, je fais pas ça pour moi. Les entrevues entre vous puis moi, puis les filles vont pouvoir vous le dire, j'aime pas ça tant que ça. Mais l'idée d'avoir un maire qui vient en studio répondre à des questions, je trouve ça important. Puis comme j'ai dit souvent aux habitués, les questions nous appartiennent, les réponses appartiennent au maire ou à la personne qui se pointe au micro. Puis à partir de là, ben là, c'est à vous autres de dire « OK, ça, je le prends, ça, c'est de la bullshit », puis ainsi de suite. Moi, c'est important que le ton de la conversation soit relativement agréable. Ça ne veut pas dire que tu ne poses pas de questions, mais l'idée, c'est que si j'ai 25 minutes d'entrevue, ben je vais essayer d'utiliser les 25 minutes pour poser le plus de questions possible.
Une question de respect aussi, là.
Oui, puis je pense que vous pourrez me dire que j'ai tort, puis je vais peut-être me rajuster, mais je pense que je vous sers plus, gang, si je pose plein de questions que si je m'ostine pendant 25 minutes sur un sujet.
Oui, parce qu'il y a une petite portion de moi qui espère vraiment que ces moments-là, ça peut permettre de mettre en lumière des enjeux qui ne sont pas traités nécessairement tous les jours, parce qu'il n'y a pas de lobby pour les faire avancer, ou encore parce que c'est facile quand tu es politicien de vivre entouré de gens qui peuvent penser comme toi. Tu sais, quand on s'est mis à y parler au mois de décembre l'année passée de la sécurité dans Saint-Roch, qu'on trouvait rock'n'roll de plus en plus, j'ose penser que c'est entendu. Quand on parle des commerçants qui trouvent ça donc bien tough quand il y a des travaux puis que la ville n'en fait pas assez, j'ose penser qu'on est entendu. Quand des citoyens nous ont parlé plus tôt cette année de secteurs où il y avait des problèmes de sécurité routière puis qu'ils n'arrivaient pas à avoir de suivi, que ce soit du 3-1 ou encore de l'Ombudsman de la Ville de Québec, je pense que dans ce temps-là, malgré tout, il y a quelqu'un qui prend une note en quelque part du côté de la ville. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir autant de sujets. Puis c'est pas nous qui dictons l'agenda. C'est vous autres, c'est les auditeurs qui nous textent. C'est
merci
vous
d'ailleurs.
Qui nous envoyez vos préoccupations.
Vous avez été très nombreux à poser de très bonnes questions. On a essayé de faire le tour le plus possible. Moi, j'ai sacrifié beaucoup de choses que j'avais pour vous laisser le devant du pavé. Là, c'est de même que ça marche. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura d'autres points de rendez-vous comme ça, en espérant que le prochain soit le face-à-face puis qu'on soit en mesure d'avoir dans le studio de Boulevard, en même temps, c'est-à-dire au même moment, Sam Ahmad et le maire Marchand à suivre.
Ça n'a pas été particulièrement facile, mais j'ai une réponse favorable du côté de Sam Ahmad aussi.
Fait.
Donc, techniquement, octobre, on aurait un face-à-face qui est en train de se monter. Hey,
t'as-tu un restraining order ou t'es correct?
Prenons rien pour acquis parce que j'ai passé par en arrière un petit peu pire, là, mais techniquement, on devrait avoir ça début octobre. Fait que vos questions sont toujours les bienvenues.
Je vais y aller si t'arrêtes de m'écœurer. Ça ressemble à ça.
Ouais.
OK. OK. Hey, c'est Gravel dans le retour. Il est 16h31. On s'arrête, on revient. Gravel.